Chers amis, si vous cherchez Dieu dans les méandres de votre vie, alors écoutez. Écoutez, car c'est lui qui vous a cherché le premier et qui viendra toujours à nouveau vous trouver. C'est lui qui le premier vous a appelé par votre nom. C'est lui qui le premier vous a conduit au monde, à l'existence. C'est lui le premier qui, sans rien demander en échange, par grâce seule, vous donne la paix et la confiance nécessaires à votre vie. Frères et sœurs, réjouissons-nous au Seigneur par la première strophe du psaume 95. Levons-nous pour nous réjouir au Seigneur. Loué sois-tu, Éternel, dont nous invoquons le nom. Toi, dont le nom nous évoque les hauts faits parmi le peuple hébreu. Les hauts faits à travers le ministère de Jésus. Les hauts faits qu'il a inspirés au sein de ses disciples devenus apôtres. Les hauts faits au sein de ton Église et au-delà. Au cœur même de ton peuple, ce peuple que tu appelles inlassablement et qui dépasse toutes nos institutions, tous nos rêves. Car tu as fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans l'allégresse, car nous découvrons en toi une figure paternelle. Tu es le Dieu de nos pères, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui fait pousser en nous le désir de vivre, c'est pourquoi nous t'exaltons. Tu es notre Dieu et nous te célébrons. Gloire à toi dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le dernier dimanche d'octobre n'est pas simplement celui où nous gagnons une heure de sommeil. C'est aussi traditionnellement le culte qui fut consacré au geste réformateur de Martin Luther, le 31 octobre 1517, et plus généralement au geste réformateur du protestantisme au fil des âges. Dans l'histoire du protestantisme français, le psaume 68 a connu un destin particulier, devenant le psaume des batailles au moment des guerres de religion. Puis, après le XVIe, puis le XVIIe siècle, qui furent assez sanglants, le protestantisme a fait sa deuxième réforme dans la deuxième partie du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, pour que les batailles à mener ne soient plus simplement l'art de la guerre contre les personnes, mais bien l'art de la guerre contre les idées qui empêchent les êtres de devenir libres, responsables, vraiment libres à l'égard de toutes les formes d'asservissement. Eh bien, c'est dans cet esprit que nous chanterons les strophes indiquées du psaume 68, les quatre strophes du psaume 68 qu'il faut évidemment chanter avec un peu de vigueur.
Thank you.
Prenons place et précisément laissons toute arrogance par la prière de repentance en utilisant les mots de Théodore de Bèze. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta Sainte Majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais, Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé, et nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et nous te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés. Nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, restons assis pour chanter la troisième strophe du psaume 95. C'est par un retour à la Bible et un examen approfondi des textes bibliques que le professeur Martin Luther découvrit ce qui allait être le cœur même de sa prédication, la grâce. Et nous pouvons entendre dans ce passage du Nouveau Testament le cœur de cette prédication et faire nôtre ce cœur de l'Évangile qui déborde bien évidemment les quatre récits évangélique. Comme il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Frères et sœurs, chantons notre reconnaissance pour ce don de Dieu par la deuxième strophe du psaume 95. Mes frères et sœurs qui voulaient offrir à Dieu un culte en esprit et en vérité, prenez garde aux exigences de sa parole, fondement de toute réforme. Que celui qui a entendu ma parole la rapporte fidèlement, dit l'apôtre. Elle est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Mettez en pratique la parole. Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Mettre la parole en pratique, c'est tout d'abord l'accueillir, la faire nôtre. Et faire nôtre la parole, c'est forger ce que nous appelons la foi, cette confiance dans la parole reçue. Et nous sommes invités dimanche après dimanche à formuler notre foi, à rendre compte de notre espérance. Et ce matin, je vous propose de vous lever pour s'associer à une confession de foi écrite par l'Église des Remonstrants. Oui, nous pouvons nous lever pour confesser notre foi, être dans la position des êtres ressuscités qui se tiennent fermement sur le sol des ancêtres et s'étendent vers le ciel où il est possible d'étendre les branches et de porter du fruit en toute saison. Voici cette confession de foi de l'Église des Remonstrants que nous avait présentée le pasteur Josten à la faculté de théologie. Nous comprenons et acceptons que la paix de l'âme ne se trouve pas dans la confession de certitude, mais dans l'émerveillement devant ce qui nous arrive et ce qui nous est donné. Nous comprenons et acceptons que la vocation de l'homme n'est point l'indifférence et la cupidité, mais l'attention pour l'autre et la solidarité entre toutes les créatures. Nous comprenons et acceptons que l'existence de l'homme ne s'accomplit pas grâce à ce qu'il est ou à ce qu'il possède, mais grâce à ce qui est infiniment plus grand que ce qui peut se concevoir à vue d'homme. Fidèles à cette vision, nous croyons en l'Esprit de Dieu qui surpasse toutes les divisions humaines et fait tendre l'homme vers ce qui est sacré et bon, afin que, dans le chant et le silence, la prière et l'action, il honore et serve Dieu. Nous croyons en Jésus, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, visage de Dieu qui nous regarde et nous dérange. Son amour pour l'homme l'a mené à la croix, mais il est vivant, au-delà de sa propre mort et de la nôtre. Exemple sacré de sagesse et de courage, il nous rapproche de l'éternel amour de Dieu. Nous croyons en Dieu, l'éternel, amour insondable et fondement de notre existence, lui qui nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous invite à un avenir de paix. Nous croyons que nous-mêmes, faibles et faillibles comme nous sommes appelés à constituer l'Église, signe d'espérance en union avec le Christ et avec tous ceux qui croient. Car nous croyons en l'avenir du monde et de Dieu, en cette patience divine qui nous offre le temps de vivre, de mourir et de ressusciter dans le royaume présent et à venir, où Dieu sera pour l'éternité tout en tous. À Dieu, louange et honneur, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et nous pouvons aussi reprendre la confession de foi de Martin Luther au cantique 565 sur la mélodie du psaume 36 qui est aussi celle du psaume 68. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 565. Éternel, notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour qu'une parole de vie nous rejoigne et qu'elle parle à tout notre être. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne une parole qui nous aide à mieux nous comprendre, à mieux comprendre la vie à laquelle nous sommes appelés. Amen. J'ai retenu ce matin un récit de réforme. La réforme ne date pas du XVIe siècle. La réforme est un esprit permanent qui constelle les textes bibliques, et c'est donc dans le deuxième livre des rois, au chapitre 23, que j'ai retenu le récit de la réforme menée par le roi Josias. Nous sommes au 7e siècle avant notre ère. Il a eu la bonne idée de faire la rénovation du temple. Il ne reste plus que l'intérieur à restaurer. Et là, un prêtre découvre un rouleau. Il le fait lire et Josias entreprend ce vaste mouvement de réforme que je vais maintenant vous lire au chapitre 23 du deuxième livre des rois. Le roi envoya rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis le roi monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et devant l'Éternel, il conclut cette alliance. Suivre l'Éternel et observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin de garder les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à cette alliance. Le roi ordonna au souverain sacrificateur Hilkia, aux sacrificateurs de second ordre et aux gardiens du seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les objets qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l'armée des cieux. Il les brûla hors de Jérusalem, dans les terrains du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. C'est au nord de Jérusalem. Il supprima la prêtraille instituée par les rois de Juda, alors qu'on brûlait des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Ceux qui brûlaient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux furent supprimés. Il sortit de la maison de l'Éternel le poteau d'Achéra qu'il transporta hors de Jérusalem vers la vallée du Cédron. Il le brûla dans la vallée du Cédron et le réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur la tombe des gens du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des housses pour le poteau d'Achéra. Il fait venir tous les sacrificateurs des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les sacrificateurs brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba. Il rendit impurs les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les sacrificateurs des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit impur le Tophet dans la vallée du fils de Hinnon, afin que personne ne fasse plus passer son fils et sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il supprima de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre du chambellan Nétan-Mélec, qui se trouvait dans les annexes. et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi abattit les autels qui étaient sur les toits de la chambre haute d'Ahaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés, il en jeta la poussière dans la vallée du Cédron. Le roi rendit impurs les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de la destruction, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, à Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il brisa les stèles, coupa les poteaux d'Achéra et remplit d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Frères et sœurs, prenons le temps de méditer ces paroles par la quatrième strophe du psaume 95. Chers frères et sœurs, la découverte du livre de la loi au chapitre 22, qui est ensuite appelé le livre de l'Alliance au chapitre 23, provoque une succession de gestes qui sont destinés à purifier le lieu sacré de pratiques contraires à ce que propose la loi. La loi, c'est-à-dire la Torah. On jette tout un tas d'accessoires hors du temple, et je crois qu'ici il y aurait de quoi faire. On supprime des prêtres qui ont été institués par les rois de Juda. J'ai traduit par prêtraille parce que ce n'est pas le terme Cohen qui est habituellement utilisé, mais un terme péjoratif. Et on détruit la maison des prostituées sacrées. Pour les deux derniers aspects, je ne sais pas s'il y aurait des choses à faire ici, mais en tous les cas, on pourrait les prendre comme métaphore de certainement quelques purifications à entreprendre. Voyez-vous, quand on lit ce passage biblique, on est justement tout de suite attiré par ces éléments un peu exotiques. Détruire les chevaux consacrés au soleil, détruire les autels, supprimer Asherah. Mais est-ce bien là le cœur même de la réforme entreprise par Josias? Certainement, il rejette bien des formes d'idolâtrie. Il restitue une royauté fidèle à l'esprit qui présidait à l'époque de David, son ancêtre, et qui fait figure de référence pour le rédacteur du Livre des Rois. Et certainement, nous nous disons que tout cela est juste et bon, parce que nous avons lu tout ce qui précède, et notamment la fameuse Torah, ces cinq premiers livres de la Bible, ce que nous appelons aussi le Pentateuque, parce que ce sont cinq livres, Penta. Toutes ces prescriptions, nous les connaissons, elles nous sont familières, même si nous n'avons pas l'habitude de les pratiquer, et c'est peut-être d'ailleurs là notre problème, parce que, en protestantisme, lutter contre l'idolâtrie, c'est un peu notre fond de commerce. Alors nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise avec la réforme de Josias, cette réforme du 7e siècle avant notre ère, qui fait suite à ce livre manifestement retrouvé dans l'enceinte du Temple. Toutefois, il me semble qu'il n'est pas tout à fait inutile de s'interroger sur ce que Josias a effectivement sous les yeux. Il n'est pas inutile de se demander ce qui a été effectivement retrouvé dans ce Temple au moment de sa restauration. Parce que l'attitude du roi de Josias qui déchire ses vêtements quand il entend les paroles du livre de la loi montre que c'est la première fois qu'il entend ces paroles. Et voyez, c'est un peu bizarre quand même de se dire que c'est la première fois dans sa vie, 18 ans après le début de son règne, qu'il entend parler de la Torah. Alors que pour nous, c'est un peu chose évidente. Je ne dis pas que c'est par là que nous commençons notre catéchisme, mais nous avons vite fait d'arriver quand même aux 10 paroles, par exemple. Et puis les histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, la sortie d'Égypte de Moïse, sont quand même des histoires familières de tous ceux qui fréquentent l'école biblique. De nos jours, on imagine mal que la Torah, cet élément si précieux du judaïsme, ait pu être tout simplement oublié dans un coin, non seulement en tant que texte perdu, peut-être était-il dans le bureau du pasteur, mais au moins le pasteur aurait eu l'idée qu'il y avait ce texte et de temps en temps on pouvait l'utiliser au moins le dimanche matin, par exemple. Mais perdu de mémoire, sorti de l'horizon, et donc inutilisé. On imagine mal que la Torah puisse sortir de l'horizon religieux tout de même, alors que cela nous semble être le cœur même de la spiritualité juive. Évidemment, si on a cette intuition, c'est parce qu'on se dit que la Torah est le bien commun des croyants, que chacun a un accès direct à la Torah. Mais la vérité est que tel n'était pas le cas à l'époque de Josias. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, parce que peu de personnes avaient accès à la lecture, et donc peu de textes étaient en circulation. On n'offrait pas une Torah lors des mariages. On n'offrait pas une Torah lorsque les jeunes entraient au catéchisme, à l'époque de Josias. L'écriture et la lecture étaient le domaine réservé des scribes qui travaillaient à la cour royale et qui servaient l'administration du royaume. Les textes de loi, les décrets, les accords avec les autres royaumes, tout cela relevait de leur quotidien, contrairement au reste de la population qui n'avait pas besoin de textes écrits. La parole faisait foi. L'apprentissage de l'écriture et de la lecture était donc réservé à une petite partie de la population qui était éduqué pour les besoins de sa fonction. Nul ne pensait à l'éducation pour tous, pas 95% d'une classe d'âge au bac. La deuxième raison pour laquelle les croyants n'avaient pas accès directement à la Torah, c'est que la Torah n'existait pas en fait. Du moins, elle n'existait pas telle que nous l'avons de nos jours. Si, tout à l'heure, en rentrant chez vous, vous prenez la lecture du livre de Néhémie et que vous ouvrez le chapitre 8, la lecture sera tout à fait édifiante. Le livre de Néhémie au chapitre 8 raconte ce qui se passe au retour de l'exil, 100 ans à peu près après ce que Josias accomplit à Jérusalem. Esdras et Néhémie sont face au peuple et ils font la lecture de la Torah. Et les prescriptions abordent la question des fêtes. Il y a Rosh Hashanah, et puis il y a Sukkot. Eh bien, pour qui a lu la Torah, il y a un petit souci. C'est qu'il manque Yom Kippour. Cela signifie qu'à l'époque de Néhémie, la Torah n'était pas encore achevée, que la fête de Yom Kippour a été intégrée ensuite. Autrement dit, la Torah n'est toujours pas finalisée quelques dizaines d'années après la lecture qu'en fait Josias. Si une partie de la Torah a certainement été composée par l'un de ses prédécesseurs, Ézéchias, qui avait lui-même entrepris une réforme importante, et que la rédaction s'est poursuivie sous Josias, elle n'est toujours pas achevée à cette époque. Ce que lit Josias n'est donc ni la Torah, ni les 5 premiers livres de la Bible auxquels nous donnons ce nom de Patatok. Ce n'est pas le début de la Bible au sens de ce recueil de textes que nous avons de nos jours, dans une édition bien lisse, juste, mais qui n'est pas celle qui était disponible à l'époque de Josias. Ce que lit Josias, ce sont des textes rédigés par des scribes de la cour royale, texte destiné à aider les rois dans leur gouvernance, et à ce moment de l'histoire du peuple hébreu, la Torah était un texte pour la cour, pas pour les croyants. Probablement était-ce une version primitive de ce que nous appelons, nous, le livre du Deutéronome. C'était un texte pour enseigner l'art du gouvernement, pas un texte pour apprendre à être un bon croyant. Ceci pour dire que nous devrions toujours être humbles quand nous faisons de nos textes bibliques des armes de rectification doctrinale, pour remettre les croyants dans le bon chemin du dogme. Un regard affûté sur les textes bibliques révèle que l'histoire de leur rédaction confirme que la Bible n'est pas tombée du ciel, qu'elle n'a pas été écrite en une seule fois et par une seule personne, mais aussi qu'elle n'a pas été écrite pour servir de norme à laquelle il faudrait se conformer. La Bible est le recueil des tentatives de différentes personnes à différentes époques qui se sont efforcées de partager leurs réflexions sur la vie et de faire prévaloir leurs convictions, qui étaient d'ailleurs parfois en contradiction les unes avec les autres. Et dans le livre de Samuel, dans les livres des rois, il n'est pas rare de voir même des rectifications. Il y a des courants qui sont pro-monarchistes et des courants qui sont anti-monarchistes. Et les deux sont ensemble. Et il faut garder les deux ensemble. Parce que, pour eux, la monarchie n'est pas non plus le point ultime de leur réflexion. Ce sont des éléments de leur contexte historique qui leur permettent de penser plus loin et de penser Dieu, pour reprendre le terme qu'ils emploient dans ces textes. Ceci pour dire que la Bible est elle-même un travail de réforme permanente et que le drame serait de maintenir la Bible en l'état, de faire un objet définitif. Par couches successives, des scribes ont proposé leur analyse de la société israélite. Ils ont proposé une manière de penser la vie en fonction de cet idéal nommé Dieu, et de parler de Dieu, de le caractériser, était pour eux une manière de faire évoluer la pensée de la population au fil des siècles. Et parfois, cela prenait un chemin inverse à ce qui avait été élaboré par le passé. Et cela ne posait pas de problème. Même le monothéisme a évolué au fil des siècles. Et certains textes ne sont pas monothéistes. Ils sont plutôt clairement polythéistes. D'autres sont énothéistes. Cela signifie qu'on l'on croit en un seul Dieu, tout en acceptant le fait qu'il y ait d'autres dieux pour d'autres personnes. Ce qui n'est pas un monothéisme strict, qui n'arrivera finalement qu'avec le prophète Ésaïe. Ceci pour dire que le travail des amoureux de la Bible n'a jamais été de conserver pieusement la lettre du texte. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez aux différentes variantes des textes bibliques, vous verrez que le texte hébreu, le texte massorétique que nous avons, sur lequel est traduit cet exemplaire de Louis II, est en fait postérieur à la traduction grecque des Septante pour certaines parties. Ainsi, il ne s'agit pas de maintenir en l'état ce texte. Il s'agit de l'ouvrir, de l'interpréter, de le faire vibrer, de lui donner du sens pour le quotidien, d'en faire un compagnon de route qui repère les dangers de l'existence et qui rappelle les voies qui conduisent à une vie un peu plus juste, parmi d'autres raisons valables de s'intéresser aux textes bibliques. En tous les cas, cet épisode de la réforme de Josias, lu au regard des autres textes bibliques, devrait nous enjoindre à ne jamais faire une lecture fondamentaliste du texte biblique. Car la rédaction, elle, n'est pas fondamentaliste. Alors si nous voulons être fidèles à l'esprit des rédacteurs et à l'esprit des communautés religieuses qui ont rassemblé ces textes et ont décidé quel serait un texte de référence en matière de foi, nous sommes plutôt appelés, nous-mêmes, à être fidèles à cet esprit de réforme permanente. Venons-en maintenant à la réforme proprement dite. Dans le cas de Josias, compte tenu de ses indications à caractère historique, en quoi consiste la réforme qu'il engage ? Il me semble qu'avant d'être le rejet de l'idolâtrie, de la prêtraille et des prostituées sacrées, la réforme de Josias, c'est la démocratisation du sacré. Le fait que le roi fasse la lecture de la loi devant tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, est une chose proprement inédite. Cela indique que le roi ouvre les portes du temple et offre au grand public ce que le temple contenait de plus précieux, ces paroles de l'Alliance qui régissent la conduite du roi. C'est un geste profanateur au sens strict. Il n'y a plus d'un côté une élite qui garderait jalousement le contenu le plus précieux et de l'autre, devant ce sacré, nous, le peuple, un peu dans l'obscurantisme, un peu dans l'ignorance. Par ce geste profanateur, Josias rend chacun capable de se confronter à l'organisation royale et capable de se confronter à Dieu, qui est le principe organisateur de la société israélite. L'organisation de la vie n'est plus seulement l'affaire de quelques-uns. Josias rend public la chose politique et la chose théologique qui la fonde. Et avec une petite forme d'anachronisme très légère, c'est le principe même de la République qui est en jeu ici, de faire en sorte que la chose politique soit dans le domaine public et non réservée à une oligarchie, par exemple, ou à une aristocratie, ou à une cléricature. Ainsi, la maison de l'Éternel, le Temple, n'est plus l'affaire de quelques-uns, par exemple les pasteurs ou les conseillers presbytéraux. Le Temple, qui symbolise le principe fondateur de la société de l'époque, ce n'est plus encore tout à fait le cas, mais rien ne dit que ça ne reviendra pas avec le temps. Eh bien, le temple devient l'affaire de tous. Pourquoi ? Parce que justement, Josias dégage tout le religieux du temple. Et du coup, le temple peut redevenir l'affaire de tous, y compris de ceux que le religieux effraie ou répulse. Parce que, à la place du religieux, ce sont les paroles d'alliance qui sont offertes à tout le peuple. Et ces paroles d'alliance constituent une sorte de patrimoine qui permet à chacun, qu'il adhère à une religion ou non, qu'il ait des pratiques rituelles ou non, cela permet à chacun de se positionner face à ce patrimoine et de pouvoir relire son existence au regard de ce patrimoine de paroles qui disent ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, qui trace un horizon pour notre humanité et qui nous permet, du coup, de pouvoir nous situer par rapport à cet horizon. Non pas nous imposer une voie particulière, mais nous donner l'occasion de reprendre notre existence pour lui donner du sens et la réorienter quand cela est nécessaire. Avec Josias, nul n'est censé ignorer la loi. Il est vrai qu'à cette époque, elle n'était pas aussi élaborée que ce qu'elle est de nos jours. Mais avec Josias, chacun est partie prenante du pacte, j'allais dire du pacte social, du pacte spirituel aussi, ce qui donne du sens et une orientation à la communauté d'existence. Avec Josias, ce n'est pas simplement une ouverture des droits à la parole pour chacun, un droit à la revendication. Cette démocratisation de la Torah conduit à placer chacun devant les exigences de la Torah, à placer chacun devant les exigences de la vie divine, se tenir devant Dieu, ce qui fut aussi l'une des grandes opérations de Martin Luther, se tenir devant Dieu. C'est l'occasion de se placer non pas face à son intérêt personnel, non pas face à son intérêt de caste, non pas face à quelques petits systèmes de fidélité, mais face à ce qu'il y a de plus ultime, pour que notre vie soit pensée à la hauteur de cet absolu, de cet idéal de vie que les rédacteurs bibliques nomment Dieu. Chacun devient donc responsable de ce qu'il fait et de la perspective de vie qu'il déploie au regard de ce que propose la Torah. Il en résulte que ce n'est plus seulement le roi qui s'engage à suivre les préceptes de l'Alliance. C'est chaque personne qui s'engage formellement dans l'Alliance. Vous voyez, quand on y pense, cela crée une société bien particulière. Cela crée une démocratie dont on pourrait rêver de nos jours. Une démocratie qui n'est pas simplement ce que l'on affirme être l'Église, dont on dit que le protestantisme est la figure la plus haute qui soit, ce qui serait vraiment à vérifier. Mais cette démocratie où chacun est vraiment partie prenante et se sent responsable de l'intérêt général. C'est cela que Josias propose à tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Considérer que la chose publique me concerne, qu'elle n'est pas l'affaire de quelques privilégiés, de quelques technocrates. Nous sommes toutes et tous concernés par toutes les affaires publiques. Et notre part spécifique est de la penser non pas en fonction de notre intérêt personnel, mais de la penser d'une manière universelle. Chaque personne, à l'époque de Josias, s'engage formellement dans l'Alliance. Il y a une sorte de pacte républicain qui s'engage. Peut-être ce que nous aimerions bien de nos jours, d'ailleurs. Chacun s'engage à prendre le réel à bras le corps, sans passer par l'intermédiaire du roi, de la prêtraille, des superstitions ou du commerce du sacré. Et cela a une conséquence, c'est que le peuple cesse de vivre à la merci du roi et de sa cour, puisqu'il a accès direct au réel, puisqu'il a les paroles qui lui permettent de porter la vie à son incandescence. Alors il est libre de pouvoir s'engager, il est libre de pouvoir entreprendre, il est libre d'entreprendre justement les réformes qui sont nécessaires, d'abord dans sa propre vie, dans sa propre famille, et puis dans son entourage. Voyez, il y a toujours quelque chose qui m'étonne. C'est une toute petite parenthèse d'ordre sociopolitique et je la réforme très rapidement. Mais je suis toujours un peu étonné, pour ne pas dire effaré, quand il y a des revendications pour dire que les gens devraient être plus payés. Mais à vrai dire, qu'est-ce qui nous engage de payer davantage nos salariés? Pourquoi faudrait-il attendre du gouvernement qu'il dise quel doit être un salaire convenable? Ne sommes-nous pas capables de savoir quel est un salaire juste pour ceux que nous employons? Voyez, c'est comme si Josias nous faisait sortir de la nurserie, comme si nous n'avions plus besoin d'être tenus par la main en toutes circonstances, mais que nous accédions à un véritable état d'adulte qui prend ses responsabilités et qui n'a pas le petit doigt sur la couture pour attendre sagement les paroles et la béquille nécessaires pour mener sa vie. Le peuple cesse de vivre à la merci du grand cirque religieux également, organisé par les profiteurs de la crédulité ou de l'angoisse des gens. C'est pour cela que nous nous efforçons toujours de ne pas être dans une posture sectaire qui rendrait les gens dépendants de l'Église, dépendants d'un service d'entraide, dépendants d'un pasteur qui serait leur gourou spirituel. Bien sûr qu'il n'y a aucune obligation de venir au culte le dimanche matin. Et dans une certaine mesure, il est heureux pour les pasteurs de voir qu'il n'y a pas trop de grenouilles de bénitier et que chacun exerce sa vie spirituelle de manière libre et que s'il vient le dimanche matin au culte, c'est aussi parce qu'il a la liberté de ne pas venir. Car qu'est-ce que serait la présence au culte si nous n'avions pas la liberté de ne pas venir? Eh bien, c'est le sens du grand ménage effectué par Josias, qui retire tout le folklore religieux du temple afin de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Un essentiel qui n'est évidemment pas confiné au bâtiment. C'est un effort de centralisation qui, dans le récit, est représenté géographiquement sur Jérusalem. Mais ce n'est ni Jérusalem, ni le temple qui compte vraiment. C'est ce que nous mettons au centre de notre vie. Et là encore, le geste de Martin Luther est intéressant, qui est de replacer le Christ Jésus au cœur de la vie du croyant. C'est-à-dire d'en faire l'axe à partir duquel nous pouvons trouver un équilibre dans la vie. Se recentrer sur l'essentiel. N'est-ce pas aussi ce que l'un de ses successeurs, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, disait quand il reprochait à bien des croyants de toujours penser aux marges de la théologie, alors qu'il consisterait d'abord à penser le centre, le Christ Jésus. Alors cet effort de centralisation, c'est se recentrer sur l'essentiel pour retrouver individuellement le courage d'être au milieu d'un environnement qui semble parfois hostile, au milieu d'une population qui a de quoi être déstabilisée de nos jours par les événements qui mènent forcément à une forme de courage et parfois de résignation. Eh bien, ce courage d'être, qui est d'abord celui de Martin Luther, qui se tient devant une religion hostile, devant un empire qui ne lui est pas favorable, mais qui a sa conscience pour lui, une conscience qu'il a forgée à la lecture méticuleuse des textes bibliques et à cette prière inlassable qui lui donne cette consistance qui fait qu'il ne recule pas à la diète et qu'il fera valoir ses convictions parce qu'elles ne valent pas moins que celles des synodes, des conciles, du pape ou de quelque président que ce soit. Voilà ce que rend possible Josias. Il rend les termes de l'Alliance accessibles à tous. Cela signifie que nous sommes toutes et tous équipés pour nous lancer dans la vie. Bien sûr, nous avons encore des choses à apprendre, des choses un peu techniques. Nous avons besoin de nous enrichir du savoir qui nous permettra d'être le plus libre possible pour mener l'existence la meilleure à nos yeux. Mais ce que Josias rend possible, ce n'est pas simplement un effort démocratique. Ce n'est pas seulement les bases d'une république. C'est le principe de la responsabilisation individuelle. D'ailleurs, sur le plan archéologique, cela correspond au moment où l'on se met à retrouver des objets sur lesquels sont inscrits les noms de leurs propriétaires. La propriété privée coïncide avec cette conception de l'individu qui rend possible la liberté et la responsabilité individuelle. Cela signifie qu'à cette époque, être israélite, ce n'était plus être anonyme dans le grand tout hébreu. C'était prendre sa part dans l'écriture de l'histoire du peuple hébreu, faire face au réel, sans passer par les filtres, pour inventer personnellement les réponses nécessaires aux défis de l'époque. Eh bien, c'est ce que firent les réformateurs du XVIe siècle, qui retrouvèrent eux aussi le livre de l'Alliance, non pas sous la forme que le clergé avait sous les yeux à l'époque, c'est-à-dire la Vulgate, la traduction latine des livres bibliques. Ils retrouvèrent l'hébreu et le grec, et c'est face à ce réel-là, face au texte biblique plutôt qu'à la tradition de l'Église, que Luther retrouva le sens du salut par grâce seul, au moyen de la foi. C'est par cette redécouverte des textes dans leur langue originale que ce qui avait été rendu possible par les travaux des humanistes trouva avec Calvin une forme d'ampleur nouvelle, lui qui permit de retrouver la grandeur de Dieu plutôt que la grandeur de l'Église. C'est par cette redécouverte des textes bibliques dans leur intégralité et non à travers la sélection qu'en faisaient les chefs de l'Église d'alors, que quelqu'un comme Zwingli fut en mesure de développer une interprétation des textes qui évitait à la prédication d'être une paraphrase inutile ou un endoctrinement délétère. Et voyez-vous, ce qui est heureux dans le protestantisme, c'est que la réforme ne s'est pas arrêtée au XVIe siècle. Il est heureux que cet esprit de réforme se renouvelât au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle, pour arracher la foi chrétienne dans son expression protestante à la mainmise des réformateurs du XVIe siècle, qui avaient l'ambition, bien légitime, on le comprend, de graver la théologie de leur maître dans le marbre. Et on oublie trop souvent la part essentielle des Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Schleiermacher, Adolf von Harnack, Ludwig Feuerbach, Ernst Rolsch, pour n'en citer que quelques-uns, qui ont revisité les travaux de leurs prédécesseurs pour tenir compte des avancées des sciences, pour tenir compte des nouveaux regards que l'on pouvait désormais porter sur le monde grâce à une connaissance plus précise du vivant, de l'univers. Et alors, ils se sont évertués à débarrasser la foi du fatras qui est certes bien rassurant comme l'est parfois le fouillis chez nous, mais qui nous détourne de ce qui compte vraiment. Et je ne prendrai qu'un exemple pour illustrer cette nécessité de se recentrer sur l'essentiel, pour faire face au réel. La grâce. La grande découverte du protestantisme a été la grâce, le salut par la grâce. Et de nos jours, peut-on vraiment dire que c'est la grâce qui nous occupe au plus haut point? Je mets la faculté de théologie de côté parce qu'elle a quelques talents que nous n'avons pas toujours. Mais est-ce la grâce qui nous anime, nous, en Église, pour définir nos ordres du jour de réunion, pour déterminer les grandes lignes de notre vie en région? Est-ce la grâce qui nous oriente lorsque nous pensons notre manière d'être parents? Est-ce la grâce qui préside à notre manière de travailler, de nous comporter, d'entretenir notre tissu social? Est-ce la grâce que nous essayons de promouvoir dans l'organisation de nos activités, dans l'organisation de notre cité? Est-ce la grâce qui est un critère d'évaluation pour estimer la valeur d'une politique, la valeur d'un placement financier ou un choix stratégique? Est-ce la grâce qui éclaire les situations auxquelles nous sommes confrontés? Et quand nous parlons du protestantisme à nos amis ou à ceux qui sont un peu curieux du protestantisme, est-ce de la grâce que nous parlons ou est-ce du fait que nous ne croyons pas en Marie, que les pasteurs peuvent se marier, que nous sommes très libres et que les temples ne sont pas sacrés et que nous avons même des femmes pasteurs? Est-ce de la grâce que nous parlons en premier lieu lorsque nous voulons présenter l'expression protestante de la foi chrétienne? Nous sommes passés maîtres dans l'art du secondaire. Nous sommes passés maîtres dans l'art de l'accessoire. Nous excellons dans l'art de parler des choses sans conséquences finalement, sans véritable enjeu. Mais, voyez-vous, nous avons ce vieux livre. Ce vieux livre est à notre disposition pour nous donner les coups de pied aux fesses nécessaires ou les carottes dans une pédagogie plus positive. Ce vieux livre dans lequel nous replongeons régulièrement pour réformer notre religion, notre rapport au monde, réformer nos convictions, réformer nos agendas aussi, peut-être réformer notre budget. Eh bien, il me semble que nous pourrions très bien aujourd'hui, non pas simplement dans notre institution ecclésiale, mais au sein de notre cité. Pensons déjà à notre métropole. Nous pourrions déjà convenir qu'il est possible de faire alliance, de renouveler l'alliance, de faire alliance à nouveau pour réinjecter de la grâce dans les relations humaines, dans les structures humaines, dans la façon de faire société, à défaut de faire église. Ne serait-ce pas intéressant de reprendre la grâce comme cheval de bataille? Non pas pour lutter contre une société qui serait matérialiste. Je ne crois pas que ce soit ça le véritable enjeu. Je crois que le véritable enjeu, c'est la société de l'échange, du don et de contre-don, qui pourrait être subvertie par la logique de la grâce. Nous pourrions très bien décider de répondre personnellement à l'exigence de la grâce dans toutes les circonstances de la vie et pour l'ensemble de la population. Nous pourrions fort bien considérer qu'il en va de notre responsabilité de réformer l'ordre des choses et d'injecter de la grâce au cœur des systèmes, des structures, des projets. Et face aux détracteurs, face à ceux qui nous rétorqueront que la vie est bien trop sérieuse pour qu'on s'intéresse à la grâce, à ceux qui nous rétorqueront qu'on ne nourrit pas des populations avec la grâce, faisons valoir que la grâce surabonde là où le désespoir et le découragement abondent. Et au fond, prenons leurs remarques au sérieux, y compris dans les domaines qui semblent les plus étrangers à la grâce, peut-être le monde de l'entreprise, peut-être le monde de la finance. Et montrons à quel point le sermon sur la montagne peut-être une bonne façon de diriger une entreprise. Montrons à quel point les béatitudes peuvent être une bonne manière de penser les placements financiers. Pensons aux investissements solidaires et responsables, qui sont déjà un premier pas en faveur d'une économie qui n'écrase pas l'homme. C'est ce livre de la loi qui n'était pas encore tout à fait écrit à l'époque de Josias, qui ne l'était toujours pas quelques dizaines d'années après, qu'il nous faut écrire de nos jours. Disons que la Bible n'est pas encore achevée et que nous sommes aujourd'hui les scribes, les scripteurs, qui avons à écrire les chapitres nécessaires pour engager une alliance qui sera une alliance universelle aujourd'hui. Écrire le livre qui réformera les mentalités et qui constituera la Bible d'un peuple nouveau, le credo d'une civilisation réformée, vraiment réformée, réformée pour notre temps, d'autres générations réformeront encore. Une civilisation qui ne s'attache pas aux réalités secondes, comme le font les moules sur leurs rochers, mais qui se recentre sur l'essentiel, sur ce qui rend notre vie véritablement éternelle. Amen. Il y a « À toi la gloire » pour Pâques, il y a « C'est un rempart » pour le culte de la Réformation. Levons-nous pour chanter les quatre strophes du cantique 543. Prenons place. C'est le moment des annonces. Dans l'agenda, je vous rappelle juste que la semaine suivante, le vendredi 6, il y aura une soirée jazz et film à 18h30 avec Gabrielle, la fille d'Irène Rondria-Jaka. Donc, jazz est un film qui sera projeté. Et le lendemain, à 18h, c'est Pascal Coirin, le facteur qui construira le nouvel orgue, qui nous présentera l'histoire de l'orgue. Je vais maintenant laisser la parole au président de la radio FM+, pour nous dire ce que vous allez entendre. Est-ce que tu prends la parole pour les assises après ? Je vais laisser la parole à Franck Lespinas, qui fait partie des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont c'est les assises à la fin de la semaine. Avec tous ces bouleversements, il est bon de faire un point. Oui, le fait de ne plus sacrifier ses enfants a vraiment réduit l'empreinte carbone. C'est incontestable. Alors, donc, à la sortie du culte, il y aura une offrande recueillie pour Radio FM+, et c'est maintenant l'offrande pour le service de notre Église, que ce soit l'occasion pour nous d'un engagement communautaire. À la sortie, vous pourrez passer par le stand tenu par Pascal et Trudy qui vendent des aimants qui vous permettront de faire tenir le calendrier des activités sur le frigo, des boîtes de déjeuner qui vous permettront d'avoir les repas que nous ne pouvons plus partager, la gourde pour ne pas vous déshydrater et le carnet pour vous noter toutes les bonnes idées de réformes nécessaires. Quoi que vous achetiez, cela n'aura aucun impact sur votre salut. Voilà, c'est juste fonctionnel. Il y a dans la fin de notre culte, après la prière d'intercession, le Notre Père, notre pain, qui est une vraie prière universelle, qui déborde largement ce que nous pouvons espérer pour nous-mêmes. C'est un véritable moment de communion et je vous proposerai que, au moment de dire cette prière, nous nous levions. Ça pourra à la fois nous donner ce sentiment de communion. On peut attendre que la prière commence, mais c'est aussi un geste que d'autres communautés ont et c'est aussi une façon de montrer qu'il y a des communions qui transcendent les communautés particulières et à défaut de pouvoir partager la célébration de la scène, eh bien, nous serons comme cela en communion un peu corporelle les uns avec les autres par-delà nos communautés respectives. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, nous t'apportons notre joie parce que tu nous as révélé cette alliance qui fait de toute l'humanité un peuple qui peut vivre de la grâce. Nous t'apportons notre joie parce que tu as suscité les défenseurs et les témoins de la foi dans ces paroles qui suscitent la vie en plénitude. Nous te disons aussi notre souffrance de ce que ta création soit déchirée et que l'esprit de chapelle l'emporte bien souvent sur la fraternité. Pardonne et redresse tout ce que nous mêlons de trop humain au souffle pur de ton esprit. Garde-nous de l'esprit sectaire, de l'intolérance et des compromissions. Réforme-nous sans cesse par ta grâce. Selon ta bienveillance, réunis sous l'unique autorité de ton Fils les membres épars de ton troupeau. Donne-nous, Seigneur, des pasteurs fidèles à ta parole. Remplis-les de ta sagesse, anime-les de ta charité. Donne à ton Église le courage de confesser sa foi sans crainte, en toute liberté, avec audace, et donne-lui de témoigner avec gratitude de ton amour. Incite-la à poursuivre dans les chemins de la justice, au sein de la prospérité comme au sein de l'adversité. Et pour cela, inspire-nous de telle manière que nous sachions consoler les affligés, que nous sachions fortifier ceux qui souffrent. Inspire-nous de telle manière que nous sachions soutenir les isolés et leur révéler que chacun d'eux, là où ils sont placés, est une semence de vie. Hâte le jour, Seigneur, où tous les peuples écouteront le message de ton évangile. Éclaire celles et ceux qui dirigent les nations, afin que la paix ne soit pas simplement une belle idée, mais la réalité de chaque existence. C'est cela que nous appelons par notre prière. Une prière que nous voulons nourrir par ces mots que Jésus a enseignés, ces mots qui nous redressent, et c'est la raison pour laquelle nous nous levons pour dire en communion avec tous les membres de ton peuple, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte sur nous son regard et nous accorde sa grâce. Vers nous, il tourne sa face et nous donne sa paix, en tout temps et de toute manière. Amen.